bon bec. Le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bon bec. Bon bec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose, depuis 2019, d'explorer l'univers de la flûte à bec. Je suis Claire Sécordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais surtout et passionnément, flûtière. Mon métier consiste à fabriquer pour vous, artisanalement, des flûtes à bec de différentes esthétiques et de différents modèles. Mais je me suis aussi donné une mission à laquelle je tiens tout particulièrement, celle de vous permettre de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux choyer vos flûtes. C'est pour cette raison que j'ai imaginé et créé Bon bec. En solo ou avec mes invités, dans des épisodes basés sur un mot-clé ou au travers de conversations inspirantes, je souhaite que vous puissiez trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec, et même un peu plus loin. Bon bec sort tous les premiers et troisièmes dimanches du mois, et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr ainsi que sur YouTube. Je vous laisse également, dans les notes de chaque épisode, tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors, que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Bon bec et bienvenue dans ce 50e épisode. Je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée de septembre 2023 pour une nouvelle saison de Bon bec avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets et un nouveau format plus court que vous avez peut-être déjà découvert cet été et qui s'appelle Allô. Mon invité du jour, c'est Pierre Hamon. Et je dois dire que le présenter dans cette introduction est presque un challenge, tellement dans le petit monde de la flûte à bec, on ne le présente plus. Pour ma part, je ne l'avais jamais rencontré, sauf en coup de vent après avoir assisté à un de ses concerts. Je le savais enseignant renommé au CNSM de Lyon, flûtiste multipassionné, ou peut-être que je devrais plutôt dire multiflûtiste passionné, concertiste étourdissant et compositeur surprenant. Et je l'ai découvert homme chaleureux et accueillant, en toute simplicité et avec beaucoup de générosité. Nous avons enregistré cette conversation fin 2021. Il m'a ouvert la porte de sa pièce à musique et nous nous sommes installés pour une heure d'échange qui m'ont semblé 10 minutes. On a parlé de ses débuts à la flûte à bec, de son parcours en autodidacte, de son attrait pour la musique médiévale, et aussi des occasions et des rencontres qui l'ont mené en Inde ou vers l'Amérique du Sud et qui ont mis sur son chemin les flûtes de tant de traditions et de tant de civilisations. On a parlé de son maître à la flûte Bonne Souris, Hari Prasad Chaurasia, et de l'enseignement et de l'apprentissage traditionnel de cet instrument qui est aux antipodes de nos pédagogies européennes actuelles. On a parlé encore du rapport des flûtes et des aérophones au sacré, à la terre, au souffle et donc à la vie, et on a parlé de comment ce lien l'a amené à la composition. Comme d'habitude, je m'arrête avant de tout vous dévoiler, et je suis ravie de vous proposer d'écouter cette conversation avec Pierre Hamon. Bonjour Pierre.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup, hein, déjà, encore une fois, d'avoir
c'est
accepté
un grand plaisir.
L'invitation. Pour commencer, j'ai envie de te demander si tu peux te présenter, mais peut-être pas de manière académique, peut-être en gardant 3 à 5 mots qui te semblent te définir ou voilà, qui pourraient être des pistes pour la suite.
Oui, alors c'est toujours peut-être difficile de savoir se juger soi-même ou se présenter. Je pense que peut-être le premier mot qui me définirait le plus, c'est rêveur. Je suis un rêveur. Et voilà, je l'ai toujours été, même à l'école. Je me rappelle, dès que les professeurs parlaient, très souvent, je partais dans ma tête et je notais d'une manière automatique. Ça a toujours été un peu le cas. Donc voilà, d'abord ce rêve. Ensuite, c'est... J'ai envie de dire, je suis peut-être un chanteur raté. Raté, c'est-à-dire chanteur, en tout cas, je l'étais quand j'étais enfant et j'adorais ça. C'était, voilà, on disait que j'avais une belle voix, donc j'étais vraiment, je passais mon temps à chanter. Et pour moi, ça a été un drame de perdre la voix lors de la mue. Et finalement, c'est dans la flûte à bec que j'ai trouvé un substitut, en fait un sifflet qui pouvait remplacer cette voix que je venais de perdre. Et ça correspondait vraiment tout à fait à cette transition.
Et comment tu as découvert la flûte à bec ?
La flûte à bec, je l'ai découvert dans des colonies de vacances qu'on appelle, qui s'appelait la FNASEM. Alors cette colonie, j'ai fait toujours la même d'ailleurs, parce que j'avais adoré. Elle était tenue par le père de Claire Giardelli. Donc Claire qui est restée une amie, une collègue aussi au conservatoire, au CNSM à Lyon, mais que j'ai connue lorsque j'avais 14 ans. Et c'est son père qui qui dirigeait une colonie de vacances, c'était à Arles-sur-Tech. Et vraiment, j'ai que des bons souvenirs. Alors mes parents m'avaient mis dans cette colonie parce qu'ils voyaient que j'étais... en fait, j'avais une envie, une soif de musique. Et moi, je suis originaire d'une petite ville en Bretagne, Morlaix, mais qui, à l'époque, n'avait pas d'école de musique ni de conservatoire. Et moi, j'ai toujours été fasciné par la musique. J'achetais des disques. Enfin, à l'époque, c'était les 33 tours. J'écoutais France Musique, ce qui était rare, j'ai envie de dire, même... au lycée, bon, je me sentais un petit peu en dehors des autres parce que, voilà, à 13-14 ans, j'écoutais beaucoup France Musique. Et c'est France Musique, en fait, qui m'a construit comme mélomane, qui a ouvert, en fait, tout mon esprit à plein de sortes de musique. Et j'étais vraiment un passionné. Et j'avais commencé à faire un peu de violon. Mais le professeur était très âgé, donc il y avait un professeur de violon à Morlaix et une professeure de piano à l'époque, et c'était tout, les deux étant déjà, d'ailleurs fort, fort âgés. Et ce professeur est décédé, donc j'avais plus de professeur. Donc mes parents ont voulu m'inscrire pendant l'été dans une colonie de vacances, et c'est là que j'ai découvert la flûte à bec, parce qu'ils mettaient tous les enfants à la flûte à bec.
Et qu'est-ce que c'était la flûte à bec en colonie de vacances à cette époque ?
Et en colonie de vacances à cette époque, alors c'était des flûtes à bec plastiques, je me souviens. Mais déjà, c'était des doigtés baroques, parce que justement, Philippe Giardelli, je crois, était quand même très... C'était quelqu'un vraiment de très bien et très, très au fait de ce qui était bien déjà au niveau des flûtes. Alors pour moi, ce qui était formidable, c'est que c'était tout de suite un jeu d'ensemble. Et en revenant de la colonie de vacances, en fait, j'y étais allé avec mon frère, qui est plus jeune que moi, et j'ai convaincu d'autres amis de se mettre à la flûte à bec et qu'on fasse un ensemble de musique ancienne. Et on a fait cet ensemble tout de suite, c'est-à-dire, on peut dire... vraiment avant de savoir jouer, quoi. On a acheté des flûtes, on a commandé, mon frère a commandé, je me rappelle, une basse, une flûte à bec basse. Voilà, je sais plus si on avait au départ une ténor, mais enfin, tout de suite, en tout cas, des flûtes alto, flûtes soprane, et je pense que si, ténor aussi, assez vite. Et on a fait un ensemble de flûtes à bec à Morlaix. Aucun de nous savait vraiment jouer, aucun de nous n'avait eu de professeur. Et on a tout de suite acheté des petites partitions de danserie. Donc je me rappelle très bien avoir passé beaucoup de temps sur les danseries de Susato, de Gervaise. Alors pourquoi ces danseries aussi ? Mais parce que finalement, sur France Musique, à l'époque, il y avait tous ces ensembles de musique ancienne qui avaient vraiment la cote. Et on pouvait entendre à la fois le Florilegium Musicum de Jean-Claude Malgoire, donc David Munro aussi. Je me rappelle, moi j'étais un fan de David Munro, et qui enregistrait, en fait, beaucoup d'ensembles de musique ancienne jouaient au départ beaucoup de danseries Renaissance. Donc ça a été un peu la première musique qui était aussi, on va dire, assez facile techniquement.
Et tu as eu tout de suite cet attrait pour la musique ancienne ?
J'ai eu tout de suite, je pense que c'est même pas tellement la musique ancienne, parce que je savais pas à l'époque que c'était la flûte à bec qui avait remplacé un peu ma voix, c'est-à-dire tout de suite quand même un très bon contact avec l'instrument. Moi, comme mélomane, même, j'ai envie de dire, à l'époque, j'étais plutôt même dans le romantique. Enfin, j'écoutais beaucoup France Musique et j'adorais tout ce qui était orchestral, romantique. Je faisais des efforts pour entendre mieux la musique qu'on disait contemporaine. Mais pour moi, au début, même Ravel, c'était presque contemporain. Puis après, c'est devenu... j'ai adoré Debussy. Alors, à ce moment-là, c'était Stravinsky qui était plus difficile. Et puis, Stravinsky est venu aussi à force de... Et de l'autre côté, en fait, c'est-à-dire qu'au début, c'était donc... Danserie Renaissance, ça a été tout de suite très, très facile à entendre. Et j'ai fait des efforts... Mais en étant fasciné vers une musique plus ancienne, et là, ça a été les grands chocs en découvrant aussi, grâce à David Munro d'ailleurs, les Machaut, Guillaume de Machaut et Dufay, Binchois. Voilà, donc j'ai envie de dire, mes goûts musicaux ont été dans les deux sens, en partant d'un chœur qui serait plutôt, on va dire, l'harmonie classique et puis romantique, et en allant à la fois vers le contemporain et vers... la musique ancienne. Et la flûte à bec, ben, j'ai découvert à ce moment-là que c'était plutôt du côté des musiques plus anciennes, quoi, effectivement. Mais j'ai envie de dire, même quand je pense maintenant à, je dirais, même à ce que l'on sait historiquement de l'instrument, que cet instrument, il est né pour la musique d'ensemble, pour jouer de la polyphonie, pour jouer ensemble. Et c'est peut-être ce qui m'a plu au départ. Et les premières pratiques, moi, ça n'a pas été... J'ai mis longtemps avant de jouer même des sonates ou de commander des sonates. Pendant très longtemps, c'était... enfin, très longtemps, ça a été quelques années, mais plutôt tout ce qui était musique de consort.
Et en ensemble.
Et en ensemble, ouais.
Et qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans la musique médiévale? Tu disais c'était un choc.
Ben, j'ai envie de dire, là, ça a été la qualité de la musique par rapport même peut-être à toutes ces danseries qui sont des musiques fonctionnelles pour danser. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai cité aussi Machaut. C'est pas toute la musique médiévale, je pense. C'est que tout d'un coup, en écoutant les œuvres de Machaut, au départ d'ailleurs en ayant quelques difficultés à les entendre, mais là je sentais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus élevé. Et donc, c'est vraiment la qualité, je crois, de cette musique qui m'a attiré vers le Moyen-Âge. Et puis, quand même, la sensation de sentir que toute notre musique venait aussi de là. Alors, on va dire que c'est plus facile, peut-être, si c'est de la musique monodique, parce qu'avec la musique monodique, on a, en fait, les sources de toute, finalement, même de toute l'histoire de de la chanson, d'une certaine manière. Si on prend les troubadours, trouvères, on peut trouver une certaine continuité. Bon, il y a bien sûr une pensée modale. C'est plus complexe lorsqu'on est sur un contrepoint savant. Et là, évidemment, je ne parle pas de l'art subtilior. Hein. Peut-être que si j'avais entendu de l'art subtilior pour commencer, je ne suis pas sûr que je serais tombé dans la marmite, alors que maintenant, j'adore ça. Donc, c'était une musique, en tout cas... au niveau monodique, qui pouvait me parler, au niveau de la beauté des mélodies de troubadour et de trouvère. Il y avait ce côté aussi, je dois dire, dans les groupes de musique médiévale, ce côté presque rock. Des premiers groupes, si on prend le studio d'Afroen Music, même en France, il y avait justement les ménétriers qui faisaient un peu de tout aussi, on va dire, c'est plutôt musique renaissance ce qu'ils faisaient, mais... il faisait aussi un peu de musique médiévale, en tout cas pour quelqu'un qui n'y connaissait pas grand-chose, c'était identifié voilà, à de la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alors le studio d'Afroen Music, là, c'était beaucoup plus sérieux, entre guillemets, plus pointu, sérieux entre guillemets, hein, je dis, au niveau justement recherche musicologique. Et il y avait ce côté, oui, ce côté un peu un groupe, quoi. Je dirais un peu comme les Beatles, ils sont quatre, ils sont cinq. Donc ça, je pense que ça faisait rêver un adolescent aussi.
Alors tu as dit rêveur, chanteur. Moi, j'ai envie d'ajouter curieux, d'après ce que tu me dis.
Oui.
C'est énormément la curiosité qui...
Oui.
Qui t'a guidé,
oui.
Là, en tout cas,
ouais,
dans le début, ouais. du parcours.
Ouais. Oui, je ne sais pas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de formation académique. Je n'ai pas eu d'école de musique ni de conservatoire. Donc, ce sont les rencontres, et les rencontres, je dirais, à la fois des personnes, et aussi ce que je peux découvrir, sans être nécessairement guidé par l'un ou l'autre. Donc c'est vrai que la radio, comme je te disais, France Musique a été très très importante. C'était France Musique des années 70, hein, voilà. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'écoutais vraiment souvent. Il y avait des concerts qui étaient même diffusés en direct. Donc, j'ai entendu en direct un certain nombre, beaucoup de concerts de Jean-Claude Malgoire avec son Florilegium Musicum à l'époque où jouait justement Jean-Claude Veillant. Alors, David Munro, j'en ai parlé. Pour moi, c'était, je pense que c'était un peu mon dieu à l'époque. Tout ça avant de connaître Bruggen. Bruggen, j'ai découvert sa musique un peu plus tard, c'est juste quelques années, mais lorsque j'ai commencé à faire des stages plus spécifiques autour de la flûte à bec, et où voilà, les amis, collègues me disaient « Ah, mais tu ne connais pas, tu n'as pas entendu », et où effectivement, je n'ai eu, on va dire, que des bonnes informations au départ sur tous ces mouvements qui étaient en Hollande et surtout sur Frans Bruggen. Et là, je me suis mis à écouter tout ça et évidemment à adorer. Mais au début, je suis plutôt tombé, on va dire, dans la marmite médiévale Renaissance avant le baroque.
Et tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que tu avais un autre parcours qui était peut-être prédéfini ou
oui,
prévu.
Oui, c'est-à-dire que bon, n'ayant pas fait d'école de musique et puis ayant des parents qui étaient très attachés à ce que leur enfant ait un métier voilà, où on gagne bien sa vie, qui soit convenable. En fait, j'étais quand même assez fort. En tout cas, j'avais des facilités en mathématiques et... Donc, j'ai fait maths maths P, j'ai fait une école d'ingénieur. L'école d'ingénieur, d'ailleurs, je l'ai choisie spécifiquement à Paris parce que je voulais venir à Paris pour la musique. Parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il se passait. C'était le tout début de toute cette effervescence baroque. Je voulais venir à Paris absolument. Voilà, j'ai eu le diplôme d'ingénieur, un peu difficilement, j'ai envie de dire à la fin, c'est-à-dire que la motivation n'étant plus là, moi, je passais mon temps vraiment à la fois dans les concerts, à essayer de jouer de la flûte, enfin tout était plutôt pensé, dirigé vers la musique, quoi. Une fois que j'ai eu le diplôme, grâce à un certain nombre de circonstances, ben là, j'ai pu bifurquer.
Ok. Est-ce que tu as d'autres termes qui te semblent d'autres termes? On a dit donc rêveur, chanteur, curieux. Est-ce que tu en vois encore peut-être un autre?
Comme ça, non. J'ai
non. Peut-être
j'ai envie
passe
de. Ouais, j'ai envie de dire je garde. Toujours, je ne sais pas, je pense que ça, c'est une qualité, une capacité d'émerveillement. C'est-à-dire, j'ai toujours un peu, je pense quand même, j'ai une âme d'enfant assez forte, quoi. Alors, c'est peut-être aussi ce qui se passe lorsqu'on est aussi autodidacte, j'en sais rien. Mais j'ai toujours cette capacité d'émerveillement. Alors, sur des choses même que je connais toujours très bien, c'est-à-dire, je dois dire presque, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas fatigué de jouer, par exemple, les estampilles médiévales, alors que je les joue depuis 30 ou 40 ans. Et que je suis absolument fasciné par la qualité de la musique. C'est pareil, on en parlait pour Macho. C'est-à-dire que si je fais travailler Macho, alors bon, ça va être pareil avec des tas d'autres musiques. Hein. Voilà, je ne ressens aucune fatigue par rapport à ça. Et puis, lorsque je vois, j'entends tout d'un coup, on parlait de curiosité tout à l'heure, mais c'est plutôt une musique. Alors qu'elle soit, elle peut être extra-européenne ou ça peut être un musicien. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'est forcément un style de musique. C'est là que je dis qu'il s'agit de rencontres. Tout d'un coup, il se passe quelque chose et je suis fasciné par quelqu'un qui joue une certaine musique. Et dans ce cas-là, voilà, j'aurai toujours cette
Et alors justement, cette
qualité.
Capacité d'émerveillement, ouais. Et de fascination, ça t'a mené loin, géographiquement, et en général.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que... Au départ, c'est venu vraiment de la musique ancienne, c'est-à-dire comme j'adorais la musique médiévale, j'ai toujours voulu en faire en plus de la musique baroque. Quand je suis arrivé à Paris, finalement, j'ai suivi un petit peu tous ces mouvements qu'on appelle maintenant baroqueux, mais qui étaient plus tournés vers la musique justement baroque. Et en travaillant évidemment les sonates pour flûte à bec, en allant écouter tous les concerts de musique baroque qu'il y avait. Mais au fond de moi, je gardais toujours ce goût et cette fascination pour la musique médiévale. Et j'ai toujours fait partie, on va dire, ou de groupes qui faisaient de la musique médiévale. Voilà, donc alors je ne sais plus pourquoi on disait ça.
Parce qu'on parlait de jusqu'où ça t'avait emmené.
Ah oui,
et
alors pour cette musique médiévale, je me suis dit, la flûte à bec seule, bon, ne va peut-être pas suffire. C'est-à-dire si on regarde aussi l'iconographie, bon, il y a beaucoup de joueurs flûte et tambour. Donc je me suis convaincu que ben il fallait quand même que j'étudie cette flûte et tambour, que j'apprenne à en jouer. Il y avait aussi la cornemuse ou des alors la cornemuse. J'étais breton, hein, je viens de Bretagne. Finalement, j'ai pas eu envie d'en faire lorsque j'étais en Bretagne. Mais alors est-ce qu'on peut dire que c'est une fois qu'on est parti? Voilà, j'ai eu envie, lorsque j'ai vu que cette cornemuse, elle était jouée vraiment beaucoup au Moyen-Âge, j'ai eu envie aussi d'en jouer. Et puis, peu à peu, c'est-à-dire une pratique en a amené une autre, j'ai saisi, en fait, c'est vrai que je suis un peu curieux, mais quand j'ai des coups de cœur, lorsque je suis allé, par exemple, en Inde pour la première fois, où j'étais absolument fasciné par tout ce que... Et on peut dire bouleversé, quoi, remué, à la fois par ce qui était dur, c'est-à-dire la misère qu'on pouvait voir, mais aussi la beauté, donc ce contraste qui était très très fort. J'ai découvert là la musique du Rajasthan, mais à une époque où en fait personne ici, j'ai l'impression, ne connaissait ça. C'était...
Tu y étais allé pour la musique ou complètement
non,
par hasard?
En fait, j'étais allé, c'était une opportunité incroyable aussi, c'est qu'on venait de former l'ensemble à La Francesca, mais il venait juste d'être formé depuis quelques mois. Et c'est un autre ensemble qui avait été contacté pour participer à l'année de la France en Inde, où c'était une grosse, grosse manifestation qui avait eu dans plusieurs grandes villes indiennes, qui était gérée, je crois, par la Maison des Cultures du Monde, et où ils invitaient à la fois, en même temps, il y avait une centaine d'artistes français de groupes différents. Et ça allait d'un groupe de French Cancan, par exemple, à des musiciens traditionnels, un couple de sonneurs bretons. Et il se trouve que l'Inde avait exigé qu'il y ait un ensemble de musique ancienne, je crois, parce qu'un des ministres indiens avait entendu à Paris...
C'est le concours de circonstances.
Et donc, ils ont demandé à cet ensemble que le ministre indien avait entendu et finalement, ils ne pouvaient pas. Et notre nom, en fait, c'est quelque chose, je pense, qui a dû se décider un petit peu au dernier moment. C'était une exigence de l'Inde. Et donc, finalement, les seuls qui étaient libres, c'était nous, puisque nous, on venait juste de se créer. Et puis, donc, c'est vraiment aussi une chance, une opportunité. Mais voilà, et on est allé là-bas. On était tous, évidemment, complètement fascinés. Mais en tout cas, on nous a fait rencontrer beaucoup de musiciens indiens, qui étaient les musiciens qui étaient venus en France, je crois, un ou deux ans avant, où c'était l'année de l'Inde en France. Donc, des musiciens quand même traditionnels, assez fabuleux. Moi, j'ai découvert à ce moment-là la flûte sitara, la flûte double du Rajasthan. Et j'ai acheté je ne sais pas combien de cassettes. Et après, quelques années, mais très peu de temps après, je pense, il y a eu ce spectacle de Zingaro à Paris autour justement de cette musique. Et là, moi, j'ai profité. Donc, je savais qu'il y aurait des musiciens du Rajasthan à Paris ou en tout cas au fort d'Aubervilliers pendant un certain temps, quelques mois, un an. J'ai tout de suite allé les voir, demander s'ils voulaient bien m'apprendre la flûte double sitara. Et donc, j'ai appris la flûte double sitara dans les baraques d'Aubervilliers.
Et comment tu t'es procuré la flûte double?
Oh, c'est toute une histoire, là. Oui, ça a été... on pourrait en faire un gag ou un film. Alors, au début, je suis allé avec une flûte à bec. Et on m'a dit au départ, c'est-à-dire je pouvais apprendre avec la flûte à bec, dans ce cas-là, en apprenant le souffle continu aussi sur la flûte à bec. Et on m'a rapporté, les musiciens du Rajasthan m'ont rapporté un mois après une première flûte qui en fait était très, très, très mauvaise, mais vraiment très, très, très mauvaise. Bon, j'ai senti que j'avais pas le choix, c'est-à-dire si je l'acceptais pas et tout, ça deviendrait un peu plus tendu. Donc je leur ai dit, ok, elle est très mauvaise, mais moi j'en veux une bonne. Et donc là, ils m'ont promis qu'effectivement, un mois ou deux mois après, j'aurai des meilleures flûtes. Et c'est ce qui s'est produit. Voilà. C'est grâce à eux que j'ai eu ces instruments. C'est très difficile, effectivement, de trouver des très bonnes flûtes, parce que depuis, j'ai compris aussi que, en fait, les très bons instruments ne sont plus... Enfin, il n'y a plus de facteurs de nos jours à en fabriquer. Pour des raisons aussi simples, je crois que c'est que la partition justement de l'Inde avec le Pakistan. C'est qu'autrefois, c'était un même pays et les facteurs étaient plutôt dans une région qui était au Pakistan et des joueurs en Inde. Et cette partition a compliqué, on va dire, toute cette problématique. Et les très bonnes flûtes que j'ai vues, c'était toujours des flûtes qui disaient venant du père ou du grand-père. Et puis, le tourisme aussi pourrit un peu tout ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont très contents d'acheter parce que la première flûte qu'ils m'ont rapportée, c'est-à-dire c'est une flûte, c'est presque un barreau de chaise qui est percé, mais voilà, il y a quelques plumes dessus ou quelques perles et donc ça fait...
ça fait indien.
Ouais, voilà.
Et bah justement, puisque tu parles de cet apprentissage avec les... On dit des Indiens, du coup.
Je sais plus de nos jours comment.
Avec ces musiciens.
Moi, oui, ouais.
Avec voilà. Comment ça s'est passé cet apprentissage avec ces musiciens? Parce que j'imagine que c'est pas un apprentissage comme on a l'habitude nous dans notre culture européenne.
Non, bien sûr. Alors la première donc apprentissage. Ensuite, ça a été quand même avec Chaurasia, qui est un Hari Prasad Chaurasia, qui lui est vraiment le grand maître de la flûte bansuri. Et c'était à un autre aussi quand même niveau, j'ai envie d'y avoir plus cette notion de gourou. Moi, ce premier apprentissage avec ces musiciens, et ça a été plusieurs de ces musiciens du Rajasthan, c'est un apprentissage comme ça se passe tout le temps en Inde, c'est-à-dire que la personne joue et vous essayez de répéter, par imitation, de reproduire. En fait, d'une manière moderne, c'est vrai que ce qui était bien, c'est que j'enregistrais tous mes cours avec des mini-cassettes, puis des mini-disques, enfin des dates, enfin toutes ces choses qui ont disparu maintenant. Donc j'enregistrais les cours, je pouvais retravailler dessus, et voilà, ils jouaient, moi j'essayais derrière. Alors parfois, il était capable quand même aussi de le jouer plus lentement pour m'aider, je dirais, à le rejoindre. Mais évidemment, on ne parle pas, on joue et voilà, c'est à vous d'essayer de suivre et puis de travailler et d'apprendre. Et la fois d'après, j'arrivais avec ce que j'avais pensé prendre lui rejouait. En général, comme ce sont toujours des musiques qui sont improvisées, donc il y a toujours des figures qui vont changer, on emmagasine des nouveaux matériaux. Et finalement, avec Chaurasia, ça a été aussi la même chose. Mais bon, peut-être avec... c'est-à-dire que là, j'étais vraiment impressionné. Lorsqu'on a un maître devant soi qui est un maître aussi, j'ai envie de dire, de vous, qui fait ne serait-ce que quelques sons, un morceau de gamme, de figure, on boit complètement. Donc, il y a une sorte d'absorption... et de fascination, mais c'est pareil avec lui, c'est-à-dire qu'il jouait un raga qui était en fait assez court, donc ils avaient quand même bien réfléchi, c'est-à-dire c'était très bien fait au niveau pédagogique, j'ai envie de dire, moi j'ai étudié avec Chaurasia à Rotterdam, et j'étais vraiment ravi de pouvoir faire ça, c'était très 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 bien pensé, parce que donc ils avaient aussi inventé une sorte de notation proche finalement de nos notations anciennes, à la fois des neumes et puis de tous les indications d'agrément, par exemple tous les signes baroques. Il y avait quand même une notation qui permettait de noter, de retrouver. Il fallait enregistrer, il fallait quand même justement travailler sur cet enregistrement, sur ce qui était oral. Et puis, d'une fois sur l'autre, c'est-à-dire que Chaurasia, il ne se rappelait plus évidemment ce qu'il avait donné la fois d'avant. Il savait simplement qu'il allait donner quelque chose qui était assez court, parce qu'il y avait un but pédagogique. Donc, si on faisait une alap, il n'allait pas faire une alap de 15 minutes. On allait faire au départ juste une minute et demie, deux minutes. Et puis, la fois d'après, il donnait de nouveaux éléments. C'est-à-dire, il corrigeait. C'est-à-dire que vous jouiez ce qu'il avait joué la fois d'avant, ou en tout cas, ce que vous pensiez avoir retenu. Et puis, bon, il n'était pas très content de tel passage. Donc, il donnait autre chose, une autre manière de faire. Et donc, comme ça, on emmagasine du matériel dans sa mémoire.
Est-ce que tu penses que ton passé d'autodidacte, finalement, ça t'a facilité la tâche pour ce type d'apprentissage? Parce que ouais. Ouais, moi, ça me semble complètement inaccessible.
C'est vrai.
Par la formation, vraiment, partition, on respecte tout ce qui est écrit.
Ah oui, Ben, je ne peux pas te dire parce que je n'ai j'ai pas vécu l'autre chemin. En fait, je ne peux pas le dire. Mais c'est vrai que j'ai quand même, au départ, beaucoup appris par les oreilles parce que j'écoutais beaucoup de disques. Donc, alors, on avait quand même les partitions, par exemple, si on prend des partitions de danserie ou même de sonate. Mais j'étais un peu comme beaucoup d'étudiants maintenant, quelquefois en Amérique du Sud, qui n'ont pas la chance d'avoir des professeurs et qui apprennent beaucoup par tous les enregistrements auxquels ils peuvent avoir accès. Et en fait, on apprend quand même énormément de choses et comme ça. Alors évidemment, beaucoup en imitation, mais bon, Quantz dit quand même qu'il faut imiter les grands maîtres. Hein. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose. Et c'est une bonne chose qui est, si ce sont vraiment des grands maîtres, enfin, des gens qui jouent très bien, je crois que c'est entièrement bénéfique. Le problème dans cet enseignement, on va dire, de maître à élève, qui actuellement même est souvent dénigré dans les formations pédagogiques, c'est que justement il y a cette histoire d'absorption et vous allez transmettre, c'est-à-dire si vous avez certains défauts, c'est vrai ceci, vous allez aussi transmettre ces défauts. Si vous êtes tendu, vous allez probablement transmettre ça à l'étudiant. Mais en même temps, je trouve que c'est en fait l'humanité depuis le début, elle n'apprend que comme ça. Ça fait juste très peu de temps qu'on conceptualise et qu'on demande aux gens de jouer par eux-mêmes sans avoir des modèles.
Et dans ta pédagogie, tu t'en sers ou comment
je joue beaucoup avec les étudiants, mais j'ai envie de dire, c'est pas jouer beaucoup pour les influencer sur tel aspect de l'interprétation. Je pense que c'est sur les choses un peu de fond. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été justement fasciné par une gamme bien faite. C'est-à-dire quelque chose qui fait que ce soit d'ailleurs à la flûte, hein, au violon, enfin n'importe quel instrument, des notes qui se suivent et qui sont en elles-mêmes fascinantes, c'est-à-dire chacune ayant l'attention qu'il faut par rapport à la note d'avant et par rapport à la note qui suit. Donc souvent, je vais laisser l'étudiant libre de son choix d'interprétation avec plus ou moins d'ornementation, avec telle ou telle manière de faire tel geste musical, mais simplement, je vais jouer pour moi, lui montrer ce que je ressens, je dirais, comme un geste qui serait, par exemple, abouti. Ou une gamme. Et on part, en fait, souvent, on passe beaucoup de temps sur des choses simples, hein, sur des fondamentaux.
Oui. Comment t'es passé des flûtes du Rajasthan aux flûtes préhistoriques, voire aux autres civilisations?
Après la flûte du Rajasthan... Donc, il y a eu cette rencontre avec Hari Prasad Chaurasia et puis quand même cette immersion dans la musique indienne, moi, qui a duré 6 ans à peu près, alors que j'étais déjà professeur au CNSM à Lyon. J'avais toute ma carrière de musicien dans différents ensembles, y compris à la Francesca. Et... Bon, ça veut dire que c'était aussi beaucoup. Pendant 7 ans, j'étais vraiment uniquement dans la musique indienne. Tout mon travail, toute ma pensée... Quand je prenais le train, je travaillais beaucoup mentalement parce que je n'avais pas le temps non plus comme les autres. Mais je prenais le train, je prenais le métro par exemple, je faisais mes gammes dans le métro mentalement. Et j'avais remarqué que c'était efficace.
Tu les visualises ?
Je les visualisais. Bon, j'avais lu ça aussi en rapport peut-être avec la sophrologie, mais en fait l'importance même pour des sportifs par exemple de cette visualisation. Donc, comme j'avais pas le choix au niveau du temps, au début, par exemple, la flûte bande-souris, c'est une flûte qui est très grande. Moi, j'ai des mains assez petites. Donc, pendant des semaines, j'avais du mal à boucher tous les trous. Donc, il faut d'abord être vraiment relâché. C'est-à-dire, finalement, c'est une position assez géniale, quand même, cette flûte, parce que c'est une flûte où les doigts sont très écartés, c'est très grand. Et moi, j'ai jamais eu de problème
de douleur,
oui. De tendinite, parce que finalement, il fallait d'abord rechercher un relâchement. C'est-à-dire, on ne peut pas y arriver si on est tendu. Et tout se fait d'abord dans cette zone où il faut chercher un certain relâchement. Et après, voilà, on peut aller plus vite. Et puis, dans la manière de faire les gammes indiennes, c'est, vous savez, toutes les gammes indiennes sont glissées un peu, c'est-à-dire c'est tion, pan, pan. Donc, le doigt passe son temps, à caresser la flûte. Donc, ce n'est pas uniquement un trou qui est bouché ou débouché, mais c'est toute une manière de toucher, de caresser la flûte et qui génère quand même des mouvements qui sont nécessairement détendus si on veut arriver à le faire. Et donc, en tout cas, j'avais remarqué au début que si je faisais mes gammes en les visualisant dans le métro, quand j'arrivais, ça fonctionnait. J'arrivais à avoir le son grave de la flûte. Alors que si je n'avais pas fait, c'était un peu l'attitude du matin.
Donc, tu visualisais les doigts
C'est-à-dire que je me vois et j'entends en train de faire la gamme, quoi, en montant la gamme, en disant le nom des notes à l'indienne aussi, Sarigama Padani. C'est une concentration sur les notes elles-mêmes et sur la gamme, sur les gestes qu'il faut faire. Donc, et pour moi, c'était un bonheur de faire cette flûte bande-souris. À un moment, quand même, j'ai réalisé que c'était trop au niveau du temps. Et notamment, en fait, c'est quand ma fille est née, je me suis aperçu, parce que comme je travaillais beaucoup mentalement aussi, peu à peu, l'inconvénient du travail comme ça mental, c'est que ça vient tout seul. C'est-à-dire que, comme je disais, dans le métro, je travaille, je monte dans le train, je travaille. Bon, je m'étais aperçu que peu à peu, finalement, je me refermais aussi aux autres, parce que dès que j'étais un peu seul, quelque part, bof, j'étais dans ma tête et dans mes ragas et dans mes... Donc, quand ma fille est née, je commençais à la bercer, puis bon, et les ragas qui sont venus, parce que je ne pouvais pas encore parler avec elle. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop. De toute façon, tu ne seras jamais non plus un musicien indien. En gros, tu as eu la chance de pouvoir rencontrer Hari Prasad Chaurasia, de faire 6 ans avec lui, bon, qui m'ont apporté énormément. On peut dire que c'est vraiment le vrai maître que j'ai eu vraiment et d'une manière suivie. Maintenant, il faut... Alors, je joue toujours de la flûte bande-souris, mais je ne joue plus de musique hindoustani, de la musique de l'Inde du Nord, parce qu'il faudrait entretenir tous ces ragas. Donc je m'en sers différemment. C'est un moment d'ailleurs que j'ai commencé à m'en servir aussi pour la musique médiévale ou avec Jordi Savall qui avait des programmes où il faisait appel justement à d'autres cultures méditerranéennes et puis pouvant aller jusqu'à l'Inde. Voilà, c'est le moment où quand même, bon, peut-être un peu à regret, mais c'était trop. Alors, on pourrait penser que je suis un peu instable, mais en fait, je ne pense pas que ce soit du tout cela. C'est que ce qui m'avait amené vers la musique indienne et vers les musiques du Rajasthan, c'est quand même toujours, pour moi, ce côté mystère. C'est-à-dire, étant autodidacte, je continue... Pour moi, la musique, c'est un mystère. C'est un mystère comme la vie, la mort. Et donc, j'ai toujours ce côté... mystère, et je peux être fasciné justement assez facilement par d'autres cultures, par d'autres approches de la musique et du son. Donc au début, ça a été vers l'Inde, grâce aussi, on va dire, à la musique médiévale qui me poussait à aller vers des instruments comme les flûtes doubles que l'on joue au Moyen-Âge. Donc il y avait ces flûtes doubles jouées au Rajasthan. Et donc, c'est cette notion de raga, une autre culture, mais c'est quand même une musique très sophistiquée. Ce qui me plaisait quand même aussi, je dois dire, dans la musique de l'Hindoustanie du Nord, c'était ces longues notes de l'alap au début. C'est là que vraiment, le grand plaisir que j'avais au départ, il était plus là-dedans que dans la virtuosité. Et donc, on va dire que dans le son, le fait de s'immerger dans un son, de passer du temps sur une note longue, Ensuite, c'est finalement ce qui m'a fasciné avec la musique d'Amérique, et c'est aussi grâce à des rencontres, c'est de voir justement, alors pour toute la musique des peuples d'Amérique du Sud, c'est-à-dire évidemment les musiques traditionnelles de nos jours, mais ce qu'on peut voir ou savoir des civilisations précolombiennes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... La musique n'est pas une performance comme elle est devenue chez nous. Elle n'est pas une virtuosité. Alors, c'est une musique qui peut être rituelle, qui peut servir aussi pour des danses, pour des chants de séduction. Mais avant tout, c'est une porte d'entrée dans d'autres états de conscience, quoi.
J'allais dire, c'est un lien avec le sacré,
oui,
quelque part.
C'est un lien, voilà.
Sacrée.
C'est un lien vraiment avec le sacré. Et donc, j'ai presque envie de dire... plus peut-être même le son que la musique. On ne sait pas ce que c'est vraiment non plus la musique. Mais ce rapport au son, je l'ai eu assez tôt, en fait. Alors, toujours pour la musique médiévale, au début, je voulais jouer, donc je jouais de la flûte à bec. Je m'étais dit, il faut que je joue d'autres choses, flûte et tambour, cornemuse. J'avais envie de jouer un peu de traversière médiévale. Mais bon, pour jouer de la traversière, il faut quand même avoir une embouchure, il faut travailler un peu. Donc j'ai passé quand même d'abord du temps à prendre quelques cours traversaux baroques, mais où finalement, je passais mon temps à essayer d'avoir une bonne embouchure, mais j'étais jamais sûr de rien. Je dirais qu'au moment de jouer, quelquefois c'était bien, quelquefois c'était pas bien. J'étais vraiment dans les phases du début, hein. Et je me suis aperçu que si je faisais une note pendant une heure, sur justement une flûte médiévale. Et pour la musique médiévale, je n'avais pas besoin de technique, de grands sauts, c'est juste des mélodies. C'était... Si je faisais une note pendant une heure, pendant quatre jours, j'avais une embouchure. En fait, en tout cas, j'étais détendu. Au niveau du concert, je pouvais prendre la flûte, je jouais, je savais à peu près ce qui allait sortir. Et une heure sans faire, alors là, c'était vraiment une heure, hein, de chronomètre en main, sans chercher à avoir un beau son, simplement souffler et m'immerger dans le son. Bon, j'ai vu que ça marchait pour moi, pour la flûte traversière. J'ai commencé à expérimenter ça avec des élèves en flûte à bec, surtout des élèves qui avaient des problèmes de souffle ou de tension. Alors, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui disent, qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire qui pètent les plombs, comme on dit, au bout de, voilà, ils tiennent pas une heure. En fait, même au bout d'une demi-heure, on a vraiment des résultats. Mais j'ai vu que ceux qui acceptaient de jouer le jeu, donc je les priais d'essayer pendant une semaine. On laissait tomber les sonates, mais pendant une semaine, on considère que c'est pas de la musique, c'est comme si on faisait un yoga, quelque chose comme ça. On fait pendant une heure, on essaye d'écouter les harmoniques de cette note. Donc peu à peu, en essayant d'écouter, on a un but quand même. Mais un but qui n'est pas sur la qualité du souffle, la qualité de... C'est simplement essayer d'entendre ces harmoniques. Et peu à peu, en fait, lorsqu'on fait ça, une note devient un peu tout un univers. Parce que peu à peu, on commence à entendre...
Une forme de méditation, non ?
On commence à entendre les harmoniques, après on les situe là ou là. Enfin, là, quand je dis là, quelquefois, moi j'ai envie de dire la douzième ou telle note ou deux octaves. Je la sens plutôt comme une sorte de petit fil qui arriverait sur la gauche. Enfin bon, chacun peut-être peut avoir son imaginaire. On entend le souffle aussi comme texture. En tout cas, on entend quelque chose qui est beaucoup plus riche que la note de départ primordiale. Et on passe du temps, et finalement, en passant du temps, on apprend à souffler, enfin, on se détend, j'ai envie de dire, au niveau du souffle. Et souvent, ça donne des meilleurs résultats que de faire les exercices en pensant qu'on doit faire ceci ou cela. Enfin, je ne suis pas contre cela non plus, hein. Mais j'ai vu que ça avait une efficacité très grande.
Parce qu'il y a un côté instinctif, peut-être ?
Je crois que c'est soi-même, c'est-à-dire c'est un peu comme soi-même, on se détend. Et soi-même, on va vers... J'ai pas de réponse à ça. Plus tard, alors bon, j'ai fait ça, c'était avant de faire de la musique indienne, mais plus tard, j'ai quand même été impressionné aussi, même par la pédagogie, entre guillemets, justement, ou l'absence de pédagogie indienne. J'ai vu des cours de Chaurasia et des gens qui venaient justement apprendre, qui savaient pas bien souffler, enfin, qui avaient vraiment des problèmes, je trouvais, de souffle, de son. Et au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, c'était vraiment résolu, ils soufflaient très bien. Et ils ne passaient pas leur temps à faire des exercices pour apprendre à souffler. C'était simplement, peu à peu, par imitation, le fait qu'au départ, dans cette musique indienne, il faut commencer par des longues notes sur un bourdon. Voilà, ça se mettait en place tout seul, j'ai envie de dire. Et puis, c'était aussi, bon, ce qui m'a peut-être empêché d'ailleurs d'aller trop loin sur les techniques, entre guillemets, de souffle, c'est que j'ai vu quand même des gens avec des techniques très différentes souffler très bien. Et en faisant quelquefois le contraire, entre guillemets. Donc là, je suis resté un peu après modeste en me disant, est-ce qu'il faut absolument que j'apprenne à quelqu'un à respirer vraiment bas? Là, je dirais que je suis beaucoup plus modeste. Mais si je regarde quelqu'un comme Chaurasia, quand il respirait, il respire avec tout son corps, mais il respire vraiment aussi avec les côtes, et il respire relativement haut. Et le souffle est extraordinaire, quoi. Donc, je ne me suis pas senti en droit, de forcer à une technique ou une autre. Voilà.
J'imagine que les différentes techniques des différents instruments, finalement, elles forment un tout et elles te servent pour tous les instruments.
Oui, je pense, oui, parce que après, il y a plein de manières, évidemment, de souffler. C'est-à-dire, si je prends les flûtes, les sikus, par exemple, ces flûtes de pan des Andes, avec les grosses flûtes, où on doit vraiment souffler très très fort. Et là, on est sur quelque chose de très différent d'un son qui est juste, enfin un son grave de flûte à bec qui au contraire est soutenu. Et donc je pense qu'il y a plein de manières, mais c'est une manière un peu ouverte d'utiliser, c'est-à-dire que les poumons. Mais tout finalement est basé sur, peu à peu, on apprend à maîtriser l'ensemble de ses muscles, j'ai envie de dire. Mais en jouant tel instrument, on va plutôt aller dans telle direction, tel autre dans tel autre.
Et dans ça me fait penser, par exemple, les civilisations précolombiennes ou même dans dans les répertoires indiens actuels, en fait, le souffle, c'est ce qui nous relie à la vie. Enfin, j'imagine qu'il y a toute une...
Oui,
pas forcément philosophie, mais c'est complètement intégré.
Si, bien sûr. Ben c'est ce qui fait, même d'une manière générale, que la flûte, dans la plupart des civilisations, hormis la nôtre, c'est un instrument souvent mystique, parce que c'est lié justement à la respiration, à la vie, au souffle. Et c'est vrai que vous allez voir au Japon le shakuhachi, le neid dans les pays méditerranéens et en Turquie. Bon, la flûte aussi, bansuri. Tous les Indiens, c'est-à-dire les seuls instruments développés dans toute l'Amérique, ce sont les aérophones. Ce sont toujours des sifflets ou des flûtes. Et donc, il y a ce lien avec justement la vie et le souffle très, très important. Nous, c'est assez étrange d'ailleurs au départ. Et ça vient, moi je pense vraiment, ça vient de cette malédiction de Marsyas et d'Apollon. C'est-à-dire que la flûte, au départ, en Occident, elle a été considérée comme l'instrument du faune, et c'était la harpe qui était l'instrument digne. Et il y a cette histoire donc de compétition entre Apollon et Marsyas, qui montre bien l'ambiguïté aussi, hein, parce que finalement, le roi Midas, il préfère la flûte. C'est pour ça qu'on lui fera pousser des oreilles d'âne également. Donc, il y a une sorte de fascination pour la flûte, mais qui n'a pas été, par les élites en tout cas, aussi parce que justement la flûte, ça vient aussi de l'aolos grec qui déformait les joues. Bon, c'est peut-être pas un instrument pour les classes élevées, nobles, parce que voilà, on disait qu'on s'enlaidissait la face en soufflant. Et chez nous, s'est développé ce mauvais côté pour la flûte, qui a toujours été considéré comme... un instrument un petit peu maudit, hein, puis il reste des expressions, hein, c'est du pipeau.
Oui, voilà. Qu'on connaît trop bien.
Voilà. Donc, alors que, et partout, et même dans, c'est-à-dire dans la représentation symbolique du flûtiste, même tel que, par exemple, dans le film Prova d'Orchestra, le flûtiste est quelqu'un d'extraverti, superficiel, qui aime la virtuosité, qui aime en faire. Ben, c'est le contraire d'un joueur de shakuhachi ou d'un joueur de ney. Donc, dans toutes les autres civilisations, pratiquement, la flûte est un instrument, au contraire, sacré, important. Et chez nous, elle est devenue quelque chose, au contraire, d'un peu superficiel.
Et moi, il y a quelque chose par rapport à la facture des instruments qui m'interpelle, que j'ai découvert quand j'ai découvert le travail de Jean-Daniel Talma et Jeff Barbe, qui est ce côté que leurs flûtes sont faites à partir... de ce que donne la nature, oui. Alors que les flûtes à bec, c'est nous qui contraignons la nature,
oui,
qui contraignons le bois pour en faire ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que dans toutes les autres cultures, les flûtes, elles,
oui,
il y a ce côté aussi.
Le shakuhachi est très travaillé.
Le shakuhachi,
hein,
c'est vrai.
C'est-à-dire, extérieurement, oui, et intérieurement, c'est une perce.
Oui, oui. Non, je pensais plus aux flûtes qui sont en roseau, qui sont des assemblages, voilà, ou en os, ou voilà, qui viennent vraiment, qui sont reliés, très reliés à la matière.
Oui, oui. Ça, c'est non, c'est vrai. Bon. Moi, c'est une des choses aussi qui m'a fasciné, justement. Après, alors, on parlait tout à l'heure de la musique indienne et pourquoi, après, aller en Amérique. En fait, donc, je disais qu'en Amérique, j'ai trouvé ce lien, justement, avec les choses peut-être plus essentielles. J'ai trouvé que c'était... qu'il n'y avait plus cette notion de virtuosité, de performance et qu'il s'agissait... d'aller vers sentir l'instrument, quoi, une correspondance avec l'instrument. C'est un peu une attitude d'ailleurs, hein, que prêchent toujours les Amérindiens ou les chamans. C'est-à-dire que même moi, il m'est arrivé de demander, voilà, sur place, de les enregistrer, par exemple, avec tel instrument, simplement pour avoir un air enregistré. Et la réponse, souvent, c'est-à-dire qu'ils acceptaient cet enregistrement, mais c'est pas comme ça que vous devez vous y prendre. C'est-à-dire que, en gros, c'est passer du temps avec l'instrument, et c'est l'instrument qui vous apprendra. Et c'est un peu ça, c'est une manière, je trouve, aussi très poétique, mais de considérer que on prend des choses également de l'instrument. C'est une rencontre, quoi.
Encore une fois, je trouve que c'est très cohérent avec ton parcours du début, où tu t'es toujours imprégné.
Oui, c'est vrai. Non, mais là, je trouve effectivement cette cohérence. C'est pas parce que finalement, à un moment, je me suis lassé de la musique indienne, que je suis parti de l'autre côté. Non, non, c'est pas du tout cela. Et pour revenir justement même à ces histoires de sons, de choses fondamentales, que j'avais trouvé un peu par moi-même, depuis, j'ai appris que, en fait, ça se pratiquait dans un certain nombre de traditions mystiques de flûte, comme ce qu'on appelle le robuki avec le shakuhachi, où on fait 108 fois une respiration et on souffle, et ça dure 40 minutes. Donc c'est sur la note fondamentale, on fait une respiration, on souffle, et on se laisse partir dans cette respiration. La manière d'apprendre le ney aussi d'une manière traditionnelle, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire en général, on demande à la personne de jouer la note fondamentale de la flûte pendant un certain temps, avant de passer à d'autres. Donc il y a cette pratique de longues notes, mais qui serait plus comme une méditation sur le son.
Et est-ce que tout ça a changé ton rapport au concert? Quand maintenant tu fais un concert, une performance finalement, comment ça agit?
Oui, oui, c'est-à-dire que ça a changé. Bon, un concert reste quand même aussi un concert, ça dépend ce qu'on joue. Hein. C'est-à-dire si je joue un concerto de Vivaldi... ça reste une performance. Hein. C'est-à-dire que, et même dans la manière, le mental, la préparation, ça va être autre chose. Mais par contre, si justement je suis dans des répertoires que je joue tout le temps, et dans ce cas-là que j'ai complètement dans les doigts, ça va me permettre d'avoir l'impression de partir plus dans, parfois, la musique, avec ce plaisir du partage, mais de pas d'être dans cette position... de performance, c'est-à-dire
de démonstration.
Oui. Voilà. Et puis, moi, ça, c'est-à-dire que ça change. C'est vrai que même avec mes étudiants, je les pousse à aller dans cette direction-là, qui n'est pas nécessairement la direction actuelle de la société, parce qu'on est quand même beaucoup sur la performance et il faut convaincre les gens avec les vidéos sur YouTube, il faut les convaincre en
une minute.
Voilà. Si vous faites un robuki, vous avez le droit à peut-être deux sons de grave, je pense que c'est raté, ça ne marchera pas. Mais non, je les pousse quand même. D'abord, je pense que la première chose, c'est ce bonheur, et c'est ce bonheur aussi du mystère, en fait, je dirais vraiment, c'est quand même d'abord pour soi-même, je pense. Et si on se fait du bien à soi-même, on peut faire du bien, on est aussi aux autres. Donc, moi, j'ai un peu cette chose-là, c'est-à-dire, en gros, profiter pour vous, quoi. De la musique, de ce qu'apporte le compositeur, d'essayer justement d'être à la hauteur de la musique qu'ils ont à jouer. Si on est dans l'improvisation, d'essayer d'être le plus, je dirais, libre, le plus ouvert possible à ce qui se passe. Et parce que aussi les impressions que l'on peut avoir lorsque ça fonctionne, hein, je ne dis pas que ça fonctionne pour moi tout le temps. Et j'ai découvert ça d'ailleurs, je suis habitué à faire des parenthèses. Hein. Aussi pour la composition, là, que j'ai découvert beaucoup plus tard, c'est qu'on a des choses, en fait, qu'on a en nous, mais c'est comme si elles n'étaient pas en nous. C'est-à-dire on les reçoit quelque part. D'où elles viennent? Est-ce qu'elles viennent d'une mémoire, je dirais, qui est plus commune à tout un peuple, une certaine humanité? Est-ce qu'on l'apprend, j'en sais rien, avec des antennes ailleurs? Mais c'est un peu la même chose dans l'improvisation. Tout d'un coup, il vient quelque chose, c'est venu comme ça. Vous ne la retrouverez pas. Vous essayez même de vous en rappeler, ça ne marche plus. Donc, elle est venue. Donc, c'est pas votre ego, c'est pas votre contrôle qui vous a permis de l'avoir. C'est au contraire le lâcher prise et le fait de savoir, je dirais, c'est un peu comme sur un tapis volant, quoi. On arrive à sauter dessus.
C'est tout et ce après, qu'on a emmagasiné ouais. avant qui est disponible
voilà.
tout d'un
et
coup.
Voilà, et après, il y a tout, hein, évidemment. Tout le travail que l'on fait avant, il sert. Je pense que c'est d'abord un travail de mémoire intérieure. Et je pense que c'est même la manière antique au Moyen-Âge de penser la composition. C'est la réorganisation de tout ce que l'on a dans la mémoire. Puisque en gros, il n'y a que Dieu qui crée, donc rien de nouveau sous le soleil. C'est juste une réorganisation.
Et alors, profitons de la parenthèse, ouais. Comment t'es passé après l'interprétation, l'improvisation? Comment tu es arrivé à la composition?
Là, c'est vraiment une chance et une rencontre aussi pour un dessin animé donc qui s'appelle Pachamama, où j'ai rencontré le réalisateur en fait qui habitait maintenant il habitait à 100 mètres de chez moi. En fait, il est venu s'installer à 100 mètres de chez moi. Il n'est pas venu d'ailleurs chez moi, il a pas sonné pour me rencontrer, il a sonné pour faire prendre des cours de violon à son fils, et comme mon épouse donne des cours de violon. Et puis, quand il est rentré dans la maison, il a vu des instruments précolombiens traîner. Il a commencé à s'enseigner. Moi, bon, il se trouve que j'étais là. Mon épouse m'a appelé. Et puis, voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Et au début, évidemment, ça ne m'est même pas venu à l'idée hein, de proposer, de composer. C'est-à-dire que j'ai juste proposé de mes instruments. C'est-à-dire, s'ils avaient besoin, après, pour les enregistrements de sa musique de film, de quelqu'un qui joue des instruments précolombiens, ben que j'en serais ravi. Et puis, une fois que voilà, on s'est rencontrés, c'était en septembre, il faisait très beau. Moi, j'habite près d'un bois, d'une forêt. Je suis parti en forêt avec une petite flûte de Pan. Et pendant... en fait, je suis revenu de la balade avec une mélodie. Et je suis allé sonner chez lui. Je lui ai dit, tiens, écoute, j'ai trouvé ça. Bon, il a adoré, finalement, c'est l'air de Tes Poules Paille qu'il y a dedans. Et peu à peu, il s'est convaincu que c'était moi qui devais le faire, ou en tout cas qui devais diriger s'il y avait une équipe de gens. Et puis, je me suis mis, et peu à peu, en m'y mettant, j'ai vu... Alors, j'ai mis, moi, beaucoup plus de temps qu'un compositeur, c'est-à-dire un compositeur de musique de film. On lui donne quelquefois... il a un mois et demi, quoi, pour tout composer. Et moi, j'ai rencontré le réalisateur au tout début, c'est, voilà, 2 ans et demi avant. Donc voilà, j'ai eu le temps de faire mes essais, mais finalement je me suis aperçu que ça venait. Mais après coup, lorsque j'écoute ça, je me demande comment j'ai pu le faire, quoi, comment c'est venu. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un certain mystère, mais dû à la concentration, quoi. Lorsque on s'y met peu à peu.
Et c'était vraiment construit. Je pense qu'il y a une petite vidéo je la mettrai d'ailleurs ouais. avec l'épisode de 4-5 minutes où tu expliques le processus, ouais. comment tu as imaginé la musique avec les instruments de oui, origine oui. avant l'arrivée des conquistadors. Et l'histoire du bois, c'est drôle parce qu'il me semble que dans cette vidéo, on te voit
oui,
jouer de la
oui,
flûte dans le bois.
J'aurais proposé
le petit,
voilà, exactement.
C'était ouais. le petit clin d'œil, ouais. mais ça ouais, devait ouais. être un travail
ouais,
extraordinaire.
Oui, oui. Ouais. Ah oui, oui.
Et puis le résultat est extraordinaire.
C'est un travail extraordinaire, mais vraiment, c'est-à-dire que ça reste, je parlais toujours de ce mystère de la musique, ça reste toujours un mystère. C'est-à-dire que je peux apprendre à... Alors depuis, j'essaye voilà, d'apprendre plus à composer, écrire. Moi, malheureusement, je ne suis pas claviériste. Donc, et j'ai une pensée quand même beaucoup plus mélodique au départ. Donc déjà, même ma composition, elle va être d'abord d'ordre mélodique. Et ensuite, cette mélodie, je vais faire aussi des arrangements au niveau harmonique, mais c'est d'abord quand même une pensée, j'ai envie de dire, mélodique. Mais je ne peux pas dire, c'est-à-dire quand je trouve, si je trouve quelque chose, j'ai l'impression que ce n'est pas de moi, quoi. C'est-à-dire que c'est, si je réécoute tel ou tel air, c'est pour ça que presque je peux dire, oui, je trouve qu'il est beau, parce que ce n'est pas une histoire de fausse modestie, c'est que, bon, c'est un peu comme si j'ai reçu ça en cadeau, quoi, à un moment où j'étais concentré, hein, où j'étais vraiment apte à recevoir. Mais ça reste quand même toujours de l'ordre du mystère. Hein.
Je dis souvent, alors ça paraît toujours un peu bête, que la flûte, enfin toutes les flûtes, c'est un instrument magique.
Oui.
Mais je trouve que dans tout ce que tu racontes, il y a vraiment ce côté magie. Magique.
Oui, oui.
Ouais, même
sans, oui, c'est vrai.
Ouais. J'ai quelques petites questions pas prévues pour finir. Bon, juste du rapide. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment?
Alors, ce que je referais différemment, c'est que j'apprendrais quand même très tôt à jouer du clavier. J'aimerais bien avoir vraiment une oreille plus harmonique, une facilité quoi, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vraiment, je pense que pour la plupart des enfants, bon d'ailleurs ma fille au départ, on l'a mis aussi au piano, maintenant si elle fait de la batterie, c'est son instrument, elle chante, mais elle a cette formation et je trouve que c'est un instrument quand même extraordinaire, d'une grande clarté aussi, parce que mentalement il faut bien se rendre compte que même nous, flûtistes à bec, j'ai envie de dire c'est un bordel dans notre tête. Parce qu'on travaille avec plein d'instruments différents, avec des doigtés différents, avec des transpositions différentes, certains préférant apprendre, je dirais, le côté transpositeur, d'autres des nouveaux doigtés. Mais de toute façon, on a quand même toujours des tas de flûtes différentes avec des tas de doigtés. Donc, c'est une sorte de jungle dans la tête. En plus, il y a ces histoires, mais là, c'est comme la plupart des autres instruments où on va jouer sur les harmoniques. Donc, il y a, comment on appelle ça, le registre, c'est-à-dire première octave, puis après, c'est à peu près les mêmes doigtés, mais ce qui change un peu pour le deuxième. Voilà. Au piano, en fait, c'est la grande plaine, grande steppe. C'est clair comme tout, c'est-à-dire les graves sont à gauche, les aigus à droite. Il y a la même distanciation pour toutes les octaves, que ce soit des notes noires ou des notes blanches. C'est la grande clarté, j'ai envie de dire. Et au niveau structuration, je pense que c'est quand même très, très bien au début. Voilà. Et sinon, bah peut-être, en fait, comme je dis que je suis un chanteur raté, peut-être que j'aurais dû reprendre des cours de chant quand j'avais, dans ce cas-là, après, je ne sais pas si c'est 17 ans. Mais en même temps, voilà, c'est pas du tout une frustration parce que ça m'a permis de découvrir aussi énormément autre chose. Et puis j'ai quand même l'impression de chanter quoi avec ma flûte. Mais sinon, non. C'est-à-dire, je referais, moi, c'est la musique et la flûte, je crois, est vraiment importante. Mais c'est vrai, comme compliment, voilà, je serais ravi de jouer plus de clavier. D'ailleurs, c'est peut-être une paresse parce que je pourrais très bien m'y mettre hein, maintenant. Voilà.
Si tu étais sur une île déserte et que tu ne dois emporter qu'une flûte, laquelle tu emporterais?
Alors là, c'est l'horreur. L'horreur. Si je peux emporter qu'une seule flûte sur une île déserte, je serais bien, bien, bien embêté. Vraiment. Bon, je pense qu'avec les bouts de bois ou les herbes, j'arriverais quand même à en faire d'autres. Mais je pense que je prendrais quand même, dans ce cas-là, une flûte qui est, alors je suis peut-être désolé de le dire pour les flûtistes à bec, mais une flûte qui est une embouchure auquel on a accès. Donc soit une flûte à encoche, soit une flûte bande-souris, la flûte indienne. Oui, je pense quand même que ce serait une flûte où je peux façonner le son moi-même.
Est-ce que tu as un mantra, une phrase totem ou quelque chose qui te guide, des mots auquel tu te raccroches?
C'est-à-dire, en tout cas, je n'ai pas un mot que je me dis, mais je pense que j'ai quand même une sorte de confiance intérieure qui me fait quand même être toujours, pour le moment en tout cas, être un peu optimiste sur le fait de pouvoir sortir de telle ou telle situation. Non, en tout cas, c'est de croire en la vie, quoi. De croire en la vie, c'est pas les mots, j'ai envie de dire, c'est le son. C'est-à-dire que vraiment, ça va être, si je cherche à me concentrer ou à faire quelque chose qui va me faire du bien, qui va me faire du bien, ça va être justement un son. Et ça peut être comme, un peu comme le homme des Tibétains, c'est-à-dire
avoir
une vibration. Une vibration. Donc, pas un mot exprimé, mais plutôt une vibration. Ouais.
Quelles sont tes actualités pour 2022 ?
Alors, pour 2022, mes actualités, c'est alors un nouveau programme avec les chanteurs d'oiseaux autour de Darwin. Et qui est, en fait, c'est vraiment un spectacle parce qu'il y a à la fois de la vidéo, des projections de tableaux, il y a de la lumière. Il y a une pianiste, Lydia Bijak, et moi, donc moi sur des instruments justement un petit peu, on va dire, très anciens ou très primitifs. Et ce contraste justement qui est assez formidable entre ce piano. Et pourquoi ce piano ? Parce que Darwin, en fait, a passé toute sa vie, après avoir voyagé donc en Amérique du Sud sur le Beagle, où il est resté, je crois, 6 ou 7 ans, et qui est un voyage absolument formidable, qui a été le choc de sa vie et qui lui a fait écrire ensuite tout ce qu'il a écrit. Et ensuite, il a passé son temps en Angleterre à écrire, à formuler ses théories avec son épouse qui jouait du piano à côté de lui et qui adorait Chopin. Donc, on peut dire qu'il a tout écrit en entendant du Chopin. Et voilà. Donc, c'est un voyage autour de, justement, de ce voyage du Beagle de Darwin. Et avec ce piano et avec cette musique de salon du 19e, et aussi justement ces flûtes qui sont censées représenter, je dirais, toute ce monde premier et auquel a été confronté Charles Darwin. Donc ça, c'est avec les chanteurs d'oiseaux, et ça nous prend pas mal de temps, même parce qu'il faut monter ce spectacle, donc c'est plusieurs résidences. Je crois qu'on va le faire une des premières fois en avril ou peut-être qu'en février, on a une date. Mais il y a pas mal de dates parce que ça intéresse aussi beaucoup, je crois, le Muséum d'Histoire Naturelle. Et même, ça a un intérêt pédagogique évident. Et puis, bon, Darwin, c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que Darwin a écrit aussi sur la musique. C'est vraiment extraordinaire. Sinon, qu'il y a. Alors peut-être, c'est pas encore tout à fait dans les clous, mais un nouveau disque avec Marc Moyon et Angélique Moyon sur la musique médiévale, plutôt troubadour. Troubadour ou, alors justement, c'est pas ça qui est encore tout à fait déterminé, ou autour d'Aliénor d'Aquitaine. Et puis, sinon, j'ai un dessin animé, court-métrage aussi, qui vient de sortir, en tout cas sur YouTube, autour de Jeanne d'Arc.
Je le mettrai donc, aussi dans les notes.
Oui, ça, ce serait très gentil. Et donc, ce dessin animé, pour le moment, il est fini. Mais c'est vrai que le réalisateur m'a parlé d'un nouveau projet. Donc, je garde un petit peu secret. Dans ce cas-là, il veut que je fasse aussi la musique. Donc, je commence aussi à rêver.
La composition.
À rêver de ça. Et puis, justement, au niveau composition, je dois aussi faire une musique pour un peintre breton qui s'appelle Bernard Boin, qui est vraiment un excellent peintre, qui m'avait proposé, en fait, de faire une musique pour accompagner une exposition qui est sur les pierres, les mégalithes de Karnak, mais aussi les Moroi de l'île de Pâques, où qu'il avait justement visité il y a plusieurs années, et puis des chaos de rochers. Donc c'est quelque chose aussi sur une antiquité, quoi.
Et puis le sacré,
voilà,
encore une
et
fois
le sacré aussi, et ce mystère aussi, voilà, de tous ces sujets-là. Et puis, avec mon épouse qui est sophrologue, ben on réfléchit aussi au fait que je puisse faire des musiques pour accompagner des textes. Et ça m'intéresse en fait beaucoup, parce que c'est un challenge qui est assez difficile, je trouve, parce qu'il faut arriver à faire quelque chose qui mette la personne dans un certain état, mais qui n'attire pas non plus. trop son attention. C'est toute cette difficulté. C'est une des choses d'ailleurs avec la que j'ai trouvé extraordinaire avec la musique de film. Donc moi, je ne me considère pas comme un compositeur en tant que compositeur. J'ai fait, j'ai composé pour des musiques de films et j'ai trouvé ça extraordinaire et ça me plairait effectivement de continuer dans cette direction, mais de continuer dans cette direction. Ça ne m'intéresse pas, je dirais, d'être compositeur en tant que compositeur. Bon, je pense qu'il y a des tas d'autres personnes qui ont beaucoup plus de choses à dire. Mais par contre, d'être confronté à cette problématique de faire quelque chose qui est au service, qui doit mettre, je dirais, l'auditeur ou enfin le spectateur dans un certain état, sans qu'il s'en rende compte, en fait. C'est une... Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Et là, en fait, la seule réponse, c'est ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et ça, par rapport, moi, à tout mon passé dans la musique ancienne, où on est quand même, justement, historiquement informé, où on peut justifier de telle ou telle pratique ou de telle autre parce que, selon les traités ou selon ce que l'on sait, il faisait comme ci ou comme ça. Là, cet argument ne tient absolument plus. C'est-à-dire, vous composez quelque chose et vous n'allez pas pouvoir le justifier pour telle ou telle raison. C'est-à-dire que les gens l'écoutent. Il y a c'est un travail d'équipe aussi, dans le sens où c'est une équipe qui valide ou qui ne valide pas. Et pour eux, c'est ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, aucun argument musicologique ne tient, c'est simplement, il faut arriver à faire quelque chose qui est au service, dans ce cas-là, de l'image ou de la scène.
Et est-ce que tu as un mot de la fin ?
Non, j'ai pas de... Et j'ai pas envie d'avoir de mot de fin.
Voilà, c'est le meilleur mot de la fin. Merci beaucoup, vraiment mille merci. Et voilà pour cette conversation. J'espère que vous avez passé un bon moment en l'écoutant. Vous l'avez constaté, les actualités dataient quelque peu, alors j'avais hésité à couper cette partie au montage, mais j'ai finalement décidé de la laisser et de proposer à Pierre de compléter avec ses actualités actuelles, donc en septembre 2023, dans cette conclusion. Alors depuis notre enregistrement, sa collaboration avec les chanteurs d'oiseaux s'est enrichie d'un nouveau programme intitulé Syrinx, avec des dates de spectacles prévues pour début 2024. La collaboration avec Atam Rasso, commencée sur le court-métrage Jeanne, continue par la création d'un concert médiéval dessiné, intitulé Symphonia, qui sera donné mi-septembre. Et Pierre a de nouveaux projets aussi, côté composition. Il a également très à cœur le programme Inca et Conquistador, avec l'ensemble La Chacana, qu'il a créé à l'occasion de ce programme. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou entendu ces derniers temps. Vous pourrez aussi l'entendre en concert, en solo, ou en duo flûte-percussion avec sa fille Ananda Brandao, dans le programme Los Pasos Perdidos, ou encore en trio avec le Trobar Project de Génie de Mai, dans un programme Exil autour des chants de femmes des 12e et 13e siècles. Et pour rester dans la musique médiévale, c'est un voyage à la source des estampilles et des danses médiévales qui nous proposera à l'enregistrement en duo avec le flûtiste Norbert Rodenkirchen. Je vous laisse absolument toutes les références et des liens vers les sites et vers les vidéos de présentation des différents projets dans les notes de l'épisode. Je vous invite aussi à retrouver Pierre Hamon sur sa page Facebook où il publie très régulièrement et sur sa chaîne YouTube. Pour ma part, de cette conversation, je retiens très fort cette idée que la musique est un mystère et que c'est un bonheur de se laisser glisser, de se laisser porter par ce mystère. L'immersion dans le son, dans le souffle, dans le son fondamental sont aussi des pistes passionnantes à explorer du côté de la facture. Je remercie encore de tout cœur Pierre pour son accueil et sa patience jusqu'à la publication de cet épisode. Vraiment, mille merci Pierre. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs flutophiles, d'être fidèles au rendez-vous de Bombec. Si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant une note et ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bombec ou en me faisant un petit coucou en ligne. Je vous lis avec plaisir et reconnaissance et je vous réponds partout où c'est possible. Vous pouvez aussi vous abonner au mail de présentation que j'envoie à chaque nouvel épisode, ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte, qui vous donne un jeudi sur deux des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec à lire en 3 minutes top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de Bombec autour de vous et partager vos épisodes préférés. Les Bombec, c'est fait pour ça. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bombec et à très vite.